Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Lorichaise, bonjour.
Bonjour.
Pour ces deux livres qui s'appellent Place Monge et puis Les Pas de l'Ombre, édités tous les deux aux éditions Le Temps qu'il fait, à Cognac, hein, je crois.
Oui. Voilà.
Mais comme à l'accoutumée, je vais vous présenter quelques petites infos avant de parler avec mon invité, donc de ces deux livres qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Alors aujourd'hui à 16h30 à l'ITTC 93 avenue Jules Julien à Toulouse, Robert Marconis vous présentera son livre 150 ans des transports publics à Toulouse, qui est publié aux éditions Priva, et je vous en avais parlé, je crois, il y a quelque temps. Donc si vous voulez rencontrer l'auteur, c'est ce soir, enfin cet après-midi, hein, plus exactement, à 16h30, à l'ITTC. Alors je vous dis ce que c'est quand même, hein, parce que les initiales, c'est bien, mais bon. Institut de technologie des transports et des communications. Voilà, et c'est 93 avenue Jules Julien. Ensuite, ce soir également à 18h, donc vous pouvez faire les deux, hein, au niveau horaire, c'est possible, à l'Office de cuisine de Toulouse, qui se situe 5 rue Hydrac, une conférence et présentation du livre « Le temps du goût » de Régine Zécry-Hurstel et de Jacques Puiset, publié là aussi aux éditions Priva et en présence des deux auteurs. Ensuite, ce week-end, vendredi 11 et samedi 12, à Rabastens, la Retirada, une histoire oubliée. L'association La Presse à Réaction organise deux journées thématiques sur la Révolution espagnole, la guerre d'Espagne et l'exil des Républicains. Un hommage aux oubliés de l'histoire. Alors, je ne vais pas vous dire tout le programme, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Simplement pour vous dire que le vendredi soir, il y a un repas, tapas et chant révolutionnaire espagnol, avec la chorale La Canaille du Midi, et qu'il faudra réserver. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Et que le samedi 12 juin, à 20h, il y a une conférence dédicace avec Progresso Marin, hein, que les auditeurs connaissent, hein. Il fait de la poésie, mais il écrit aussi des livres, notamment Exilé espagnol, La mémoire à vif, publié aux nouvelles éditions Loubatière. Donc si vous voulez rencontrer Progresso Marin, n'hésitez pas à aller à Rabastens ce week-end. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement et pour réserver donc ce fameux repas du vendredi soir. C'est le 05 63 57 32 98. Et puis je continue cette petite page d'infos avec l'atelier de lecture de poésie qui se déroulera ce samedi 12 juin de 10h30 à 12h30 au troisième étage, petit auditorium de la médiathèque José Cabanis. Donc je vous rappelle que cet atelier est gratuit, mais qu'il faut réserver pour une question de place, hein, voilà. Donc le numéro, c'est 05 62 27 45 69. Et je vous rappelle également que cet atelier est animé par Blandine Poney et qu'elle vous propose de découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de texte, de travailler ensemble le dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, ça sera peut-être même le dernier avant la rentrée de septembre. Je ne sais pas si ça fonctionne cet été, donc samedi 12 juin. Et puis je termine cette page d'infos. Mardi 14 juin à 18h, à la librairie Ombre Blanche, qui se situe 50 rue Gambetta à Toulouse, une rencontre avec Nicole Zimmermann, qui était venue le 20 mai dernier nous parler du superbe livre sur Artemov, hein, le peintre russe, qui est enterré pas loin de chez nous, hein, à Revel, et là qui présente donc, c'est carrément un autre sujet, un livre sur, je vais vous dire le titre, Menaces sur la santé au travail, qui est paru aux éditions Pascal Gallaudet. Donc Nicole Zimmermann sera présente, bien sûr, avec les deux autres auteurs de ce livre, qui sont deux médecins du travail, avec lesquels elle a écrit donc ce livre au sujet fort intéressant et très actuel. Donc c'est mardi 14 juin à 18h à Ombre Blanche.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Et maintenant, je me tourne devant... vers mon invité, plus exactement, Jean-Yves Lerichesse. Alors, on s'est rencontrés en janvier dernier au Salon de Montgiscard, au Salon du Livre de Montgiscard. Et donc, j'ai été intéressée donc, par vos deux livres, hein, Place Monge et Les Pas de l'Ombre, édité aux éditions du Temps qu'il fait, Le Temps qu'il fait. Alors, ce que vous m'aviez dit, ça m'avait marqué. Vous m'aviez dit, oh, mais vous savez, c'est pas très gai. Comme livre. Mais alors, c'est vrai que le sujet n'est pas très gai, mais c'est très, très bien écrit. Ça, voilà, je l'ai remarqué de suite en lisant. C'est très, très bien écrit. Et le fait que ça soit pas très gai, c'est pas très grave, en fait, parce que ça passe très bien. C'est vraiment superbement écrit. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé vos deux livres, Jean-Yves Lerichesse. Alors, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes né à Guéret. Dans la Creuse.
Oui.
Voilà, vous avez passé vos premières années dans cette région. Et puis ensuite, vers une dizaine d'années, vous êtes parti sur Bordeaux.
Voilà,
vous avez fait vos études, collège, lycée, et puis université. Hein. Alors, vous avez fait des études de lettres.
Oui.
Alors, peut-être ça explique le style magnifique de l'écriture, je ne sais pas, ou là, je ne sais pas dans quel sens.
Je ne sais pas s'il est magnifique, mais enfin, en tout cas, le goût du style, en tout cas, oui, ça, certainement, c'est lié. Alors, effectivement, dans quel sens, hein, je crois que c'est autant parce que j'aime l'écriture, j'ai toujours aimé l'écriture depuis longtemps, que certainement je me suis lancé dans des études de lettres et sans doute aussi la pratique intensive de la lecture, peut-être encore plus intensive du fait de mes études et de mon travail, ont sans doute aussi approfondi ce goût du style. Donc ça joue dans les deux sens.
Sûrement. Donc, vous avez vécu et enseigné donc, dans plusieurs villes, hein, Niort, Perpignan. Et puis bon, vous êtes venu à Toulouse.
Mmh, oui.
Et donc, vous enseignez actuellement à la faculté du Mirail de Toulouse. Donc, comme professeur de lettres modernes, c'est ça?
C'est la définition exacte.
Oui, oui. Lettres modernes. Et alors vos racines familiales sont en Corrèze, hein, d'ailleurs on va le voir dans vos deux romans, hein, dans vos deux livres. Donc avec vous avez encore une maison, votre famille a encore
une maison familiale qui est évoquée dans le premier
roman. Et alors l'écriture, donc vous écrivez donc comme vous le dites depuis toujours, hein, depuis que vous êtes en âge,
l'adolescence
voilà. Et mais finalement, l'arrivée à la publication de ces deux livres, c'est finalement la découverte de quelque chose dans votre famille, de lettres, de souvenirs, enfin de...
Oui, c'est ce qui a fait, en tout cas, que j'ai certainement que je suis arrivé au bout d'un projet de roman. Jusqu'ici, j'avais écrit des textes brefs, soit des poèmes à une époque ou des petits récits, quelques nouvelles, bon, mais ça n'avait jamais constitué vraiment, peut-être que j'avais pas non plus suffisamment insisté pour aboutir éditorialement, mais donc là je suis arrivé à quelque chose qui m'a paru pouvoir être publié. Effectivement, sans doute la matière sur laquelle j'ai travaillé m'a aidé certainement.
Tout à fait, on va y revenir. Oui, vous avez publié trois essais, hein, quand même. Hein,
oui, tout à fait. Alors, je ne parle pas évidemment de la production universitaire, mais qui est importante aussi pour moi.
Tout à fait, sur des auteurs que vous aimez beaucoup et qu'on retrouve d'ailleurs avec des petites phrases
hein,
à chaque chapitre. Donc, vous avez écrit trois essais, donc un sur Giono, Jean Giono, un sur Claude Simon. Hein, on retrouve beaucoup de phrases de Claude Simon et un sur Richard Millet.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, ça a été publié. Puis bon, vous avez aussi écrit de nombreux articles, donc comme vous dites, de critique universitaire, de par votre profession de professeur. Et donc, Place Monge est publié en 2008, hein, il a donc, aux éditions du Temps qu'il fait. Et puis, donc, un an après, hein, 2009, on a Les Pas de l'Ombre qui sort aussi chez le même éditeur, hein, à Cognac. Donc, ces deux livres ont été inspirés tous les deux, hein, on peut dire, ont été inspirés donc, des archives familiales, donc découvertes donc, dans la maison, la fameuse maison de Corrèze.
Voilà.
Et ainsi que par les récits aussi que vous a fait votre papa.
Oui, voilà. C'est-à-dire que le premier livre, Placement, j'ai peut-être plus fortement marqué et inspiré par les archives. Ouais. Et dans le deuxième, il y a une part d'archives, il y a aussi une part de récits, de transmission, enfin de orale,
hein, on peut dire, de père à fils. Votre papa était encore en vie à l'époque.
Tout à fait. Et puis c'est vrai que ce sont des histoires, puisque dans le deuxième livre, effectivement, sont évoquées en particulier donc les années, on va en parler sans doute, mais enfin les années 30, la guerre, la captivité. Ce sont donc des récits qui ont bercé aussi déjà mon enfance et tout au long de ma vie. Quoi, voilà.
Oui, parce que le premier, bon, c'était plus les archives, parce que votre grand-père, en plus, n'est pas revenu.
Mon grand-père étant mort à la guerre de 14, ma grand-mère.
N'est pas revenu de la Première Guerre mondiale, donc c'était plus les archives.
Voilà, et quelques éléments, un petit peu de récit, mais peu de choses, parce que finalement, on en parlait assez peu dans la famille.
Alors, Place Monge, on va commencer par celui-ci, mais enfin, on va plus développer Les Pas de l'Ombre, qui est le plus récemment paru. Donc, Place Monge, c'est... moi, j'ai beaucoup aimé la photo de couverture. Oui. Hein. Alors, vous aimez la peinture, Jean-Yves.
Oui, oui.
Et voilà, la photo de couverture, je le signale, c'est une huile sur toile qui représente un intérieur avec une femme debout, vue de dos. Et moi, alors, vous allez dire le peintre...
Hammershøi, oui. Wilhelm Hammershøi, qui est un grand peintre danois du début du XXe siècle.
Voilà. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette. Et quand on lit le livre, on peut imaginer que c'est votre grand-mère.
Voilà, tout à fait.
Voilà, c'est pour ça que vous l'avez choisi.
C'est comme ça que je l'ai vu, que je l'ai imaginé.
Et il est dédié à Anna, ce livre.
C'est ma fille.
Ah, c'est votre fille. Voilà. D'accord. Donc, ce livre, alors, les deux sont sur le même modèle, on peut dire quoi, quatre chapitres, hein, ce sont des livres pas très.
Ils font une centaine de pages.
Voilà, tout à fait. Donc, quatre chapitres, et avec chaque chapitre, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une petite phrase, vous disiez,
une épigraphe.
Une épigraphe, donc, d'un auteur ou d'un poète que vous aimez.
Oui.
Alors, le premier chapitre, c'est la lettre, le deuxième, c'est Jean, le troisième c'est Gabriel et le quatrième chapitre c'est La Place,
La Place Monge à Paris.
Tout à fait. Donc l'histoire, on peut peut-être un petit peu dire de quoi ça parle. C'est l'histoire de votre grand-père paternel.
Oui. Et de ma grand-mère, en fait.
Hein,
voilà,
grand-mère,
c'était quand même une double histoire. Et effectivement, mon grand-père qui a été tué à la guerre de 14, alors qu'il était marié donc depuis peu de temps et qu'il avait
un petit garçon,
mon père, qui est né en 1914, et aussi ensuite une petite fille, mais qui est morte en bas âge. Donc, c'est une histoire triste, c'est pour ça que je vous l'avais dit, Giscard, puisque ensuite ma grand-mère, donc veuve de guerre, est elle-même morte de la tuberculose quelques années après.
C'était un fléau à cette époque-là. Comme Gabriel aussi, l'ami d'enfance de votre papa.
Oui, voilà.
Gabriel.
Oui.
Aussi. Mais donc voilà, donc ce premier livre, Place Monge, voilà, c'est un hommage, on peut dire, à votre grand-père, qui lui n'est pas revenu, au contraire de votre papa, qui lui est revenu de la Seconde Guerre mondiale, mais qui lui n'est pas revenu de la Première Guerre mondiale. Mais ça commence, en fait, il est revenu en permission dans l'appartement qu'ils occupaient, Place Monge, et pendant que, évidemment, votre grand-mère et puis ses enfants étaient en Corrèze, justement, à l'abri, Et lire est revenu Place Monge, et puis il a retrouvé toute cette vie qui s'était arrêtée, d'un seul coup, pour ce départ à la guerre et puis pour mettre à l'abri sa femme et ses enfants. C'est très émouvant, je trouve, la façon dont vous écrivez aussi, c'est très pudique, et ça ne fait que ressortir le côté émouvant, finalement.
Alors effectivement, le livre est vraiment parti de cette lettre, de l'une des lettres donc que j'ai retrouvées, qui étaient les lettres écrites par mon grand-père à sa femme tout au long de la guerre, donc en tout cas une partie. Et celle qui m'a peut-être le plus profondément marqué et qui a été à l'origine de toute cette écriture, c'est cette lettre écrite donc en mars 1917 par mon grand-père, qui, pour une permission, revient juste un samedi et un dimanche dans l'appartement vide de la Place Monge. Et là, cette lettre est très belle parce qu'il décrit en fait ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Donc tout d'un coup, j'ai eu l'impression que ce personnage de mon grand-père, qui pour moi était vraiment un personnage assez lointain, dont bien sûr que je n'avais pas connu, mais en plus sur lequel je savais assez peu de choses. Et donc j'avais vu simplement le portrait photographique, mais un peu retouché, comme on faisait à l'époque. Donc toujours un peu loin, un peu figé pour l'éternité. Quoi. Et là, tout d'un coup, ça devenait vraiment un être humain avec des sentiments, des émotions, et en plus une écriture aussi. Enfin, c'est pourquoi j'ai effectivement introduit dans le texte des extraits des lettres,
qui
sont absolument authentiques, auxquelles je n'ai rien touché de manière générale. Tout ce qui est lettres ou archives dans ces livres, j'ai voulu respecter vraiment les textes.
Comme le poème de votre papa.
Voilà, tout à fait, comme le poème de mon père.
J'ai beaucoup aimé.
Et c'est plutôt autour de ces fragments de texte. Moi, je développe ma propre écriture, mais je n'ai pas voulu du tout toucher à ces textes pour qu'ils gardent justement leur vérité.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qui s'en ressent, c'est que c'est vraiment ce qu'on lit, c'est vrai. Enfin, on sent que c'est vrai, c'est réel.
Je pense que effectivement, grâce à ça, ça produit cet effet. Oui.
Tout à fait. Et donc pour en revenir à Placement, puis après, on va passer au Les Pas de l'Ombre, hein, le deuxième livre. Moi, je trouve super que vous ayez, enfin, que votre famille ait gardé tous ces documents.
Oui.
Parce que ça aurait pu, en plus avec la guerre, plein d'autres événements, hein, d'ailleurs, pas que la guerre, mais je veux dire, il y a peu de gens qui peuvent avoir, enfin, qui ont gardé des lettres, des archives, des choses comme ça.
Oui,
je trouve ça très...
C'est rare. Je pense que ça existe quand même, mais
c'est
vrai que c'est pas si fréquent. Ça suppose effectivement qu'il y ait un lieu qui reste dans la famille, qui soit préservé.
Oui,
ce qui est le cas effectivement des maisons de famille. C'est une maison qui est dans ma famille depuis la fin du 19e siècle, donc ça commence à faire un moment.
Oui.
Et donc voilà, il y a une espèce de sédimentation des archives. Mais là, par exemple, les lettres en question, moi, je ne les avais jamais vues. Hein. Elles étaient effectivement dans un coin de placard, un peu humide.
Et après,
je les ai découvertes très tard. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, mais c'est aussi le genre de surprise que réserve ces vieilles maisons.
Les vieilles maisons familiales. On découvre des cachettes et puis des beaux secrets, en l'occurrence. C'est un beau secret, c'est pas le secret.
Non, c'est des beaux. Il y a aussi des beaux secrets de famille.
Tout à fait, mais il faut le dire. Hein, il faut le dire. Tout à fait. Donc le second, votre second livre, Jean-Yves Le Richesse, c'est Les Pas de l'Ombre, hein, toujours aux éditions Le Temps qu'il fait. Donc, qui est paru en 2009, hein, donc c'est tout récent, même fin 2009,
l'automne
2009, octobre. Alors, il est tout aussi beau que le. j'ai tout autant aimé que le premier, hein, tout aussi bien écrit, La photo de couverture, là aussi, est sympathique, hein, c'est du même peintre,
oui. J'ai souhaité que ce soit le
aussi.
Même.
Voilà, bah oui, comme c'est un peu. Bon, on peut les lire indépendamment, mais enfin, bon, quelque part, ils sont quand même liés.
Ils sont liés,
hein,
aussi,
par vous, quelque part.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, ça représente une rue à Londres.
Oui, alors Londres, c'est...
Alors Londres, pourquoi Londres? Je me suis posé la question, vu qu'on ne parle pas trop de Londres.
Non, mais ça n'a aucun rapport. Ah. Enfin, si vous voulez, est-ce que vous auriez deviné que c'était Londres si vous n'aviez pas vu le titre?
Voilà. Non, non.
Bon, voilà, donc ça va. Donc
ça va.
Voilà. Simplement, il fallait quand même mettre le titre original.
Oui, tout à fait.
Mais pour moi, c'était une rue de ville.
De cette époque-là.
Début 20e siècle. Et une rue vide, si je tenais à ce sentiment de vide, puisque avec ce lointain un petit peu vaporeux. Et voilà.
Alors, donc, dans ce second livre, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, même principe que le premier, 4 chapitres, avec à chaque fois, les petites phrases des auteurs que vous aimez. Il y a Sully Prudhomme, notamment.
Oui.
Et alors.
Mais c'est parce que c'était. Enfin, c'est d'Emplacement, d'ailleurs. Mais c'est parce que c'était dans
l'Emplacement,
C'était dans le carnet de poèmes de ma grand-mère. Donc là, c'est un petit peu. J'aime bien certains textes de Sully Prudhomme, mais je ne suis pas un fanatique de Sully Prudhomme.
D'accord,
mais c'était plutôt la poésie aimée par une jeune femme de cette époque, du début du XXe siècle. Mais cela dit, il y a des choses très belles.
Ah oui, moi je la trouve très belle.
Voilà, tout à fait.
Le verre de... Alors le premier, on va dire un petit peu l'histoire. Enfin, le premier, d'ailleurs je vais lire la quatrième de couverture pour nos auditeurs, ça va leur donner un petit peu l'idée du second, Les Pas de l'Ombre. L'ombre d'un étudiant des années 30, le survivant de Placemonge, erre dans les rues du quartier latin. Il a été orphelin dans un internat gris de province. Il sera prisonnier dans une froide région d'Allemagne. Dans ses pas, son fils imagine ce que fut sa jeunesse à partir de photographies, de lettres, de poèmes, d'anecdotes. Il le rejoint au bout du chemin, où le présent se confond avec le mythe. Je trouve que la quatrième de couverture est tout à fait colle parfaitement au livre. Vous savez, des fois, les quatrièmes de couverture, oui. Ça ne colle pas forcément. Mmh. Et bien, celle-là, bon. Elle colle parfaitement. Ça et va. Notamment sur la fin, parce que la fin, c'est très ouais. émouvant, je trouve.
Oui, voilà.
Vous rejoignez votre père. Enfin, voilà, il y a le oui. présent le avec grand le passé. Âge, ouais. Je trouve que c'est, voilà, mmh. c'est une très belle, un très beau chapitre, l'épilogue. Mmh. Donc, le premier chapitre, c'est Quartier latin. Donc, vous partez voilà, un peu à la découverte de la jeunesse de votre père, Pierre, donc, dans ses années d'étudiant donc, à Paris, hein, fraîchement débarqué de Corrèze, hein, mmh. voilà, et dans les années 30. Il loge chez son parrain et sa marraine, hein, et on découvre donc la vie des étudiants à cette époque, hein, Paris les années 30, voilà, il écrit des poèmes, et puis j'ai beaucoup aimé les notes aussi des petits carnets de sa grand-mère oui, qui est en Corrèze, oui. et voilà, qui écrit et qui s'inquiète pour lui, du danger de la capitale, voilà. et qui a tous ses espoirs pour qu'il réussisse ses études. Enfin, c'est émouvant.
Oui, les carnets de ma grand-mère sont, oui. de manière générale, il y avait aussi des extraits dans le précédent, et ils sont très oui, touchants parce que ce sont des petits carnets dans lesquels elle notait pour elle-même des événements importants de son existence. C'était pas vraiment un journal, mais c'était plutôt une sorte de mémoire personnelle qu'elle se constituait. Donc c'est très émouvant et là
et
aussi
vous les avez retrouvés.
Et je les ai retrouvés. Oui,
oui, ça c'est magnifique, hein, je trouve.
C'est une chance aussi.
Ah oui, vraiment, vraiment. Alors après Pierre, il devient répétiteur, donc il quitte son parrain et sa marraine.
Oui,
il a sa propre
un peu d'indépendance.
Indépendance, son propre logement. Voilà. Alors après le deuxième chapitre s'intitule L'orphelin. Alors là, on repart en fait dans le passé, dans le sens où c'est les années collège, enfin les
oui.
années lycée, plus
oui, c'est
exactement
ça. Il y a un
les
tour
années
en arrière,
lycée.
Ouais, ouais.
Voilà, il part en internat donc dans un lycée donc en
à
province,
Tulle,
hein,
oui.
voilà, à côté de, enfin
oui,
en Corrèze.
Voilà,
hein.
à Tulle, dans le chef-lieu. Oui.
Voilà. Et donc là aussi, on découvre la vie du lycée à cette époque. Hein, c'est intéressant. Et puis bon, ça fait sourire des fois. Enfin, sourire ou bon, voilà. Enfin, ça nous fait repartir en arrière. Des fois, on voit dans les films. Hein, Et donc les années lycée et internat donc de Pierre et c'est là qu'on apprend que c'est grâce à un jeune prof de philosophie
oui.
qu'il va faire ses études à Paris.
Oui, oui.
Hein, un jeune prof oui. qui l'a oui. remarqué.
Oui. Il a
part,
eu la chance effectivement d'avoir pour professeur quelqu'un qui est connu. Hein, dont je ne donne pas le nom dans le livre parce que j'aime bien ne pas tout dire. Mais
oui,
c'est,
mais d'ailleurs c'est très
voilà,
bien.
Mais il s'appelle Jean Hippolyte. Ça a été ensuite. Un philosophe important et mon père a eu la chance de l'avoir comme professeur, tout jeune professeur, et il lui a donné la passion de la philosophie, mais aussi de la poésie, parce qu'à l'époque dans les lycées on enseignait la poésie plutôt du 19e siècle
oui,
et même plutôt du romantisme. Et il a fait découvrir Rimbaud par exemple ou d'autres.
Oui, voilà. Et donc c'est grâce à lui, voilà, il était voir les grands-parents, hein, pour leur dire, mais voilà, votre petit-fils, il faut qu'il aille à Paris, continue ses études, et c'était pas facile, hein, pour les grands-parents de lâcher entre guillemets le petit-fils dans la capitale, la grande ville.
D'autant plus que certainement le fait qu'il soit orphelin faisait qu'il était aussi surprotégé.
Il
y avait une sorte d'inquiétude qu'on sent en particulier dans les carnets de la grand-mère, une inquiétude permanente.
Dès qu'il est un peu, qu'il prend froid, on a peur forcément de la tuberculose qui a fait partir sa maman. Alors le troisième chapitre, le temps nous rattrape malheureusement toujours trop vite. Le troisième chapitre s'intitule alors KG, hein, je pense que
oui,
c'est KG,
oui, oui.
26-984, je ne sais pas si on peut dire
alors,
dans ce sens-là.
Ça veut dire Kriegsgefangener, c'est-à-dire c'est les initiales prisonniers de guerre en fait en allemand.
D'accord, hein,
avec un numéro de matricule qui était celui de mon père en captivité, oui.
Donc là, c'est avec un très beau vers d'ailleurs d'Aragon,
oui,
là, cette fois.
Oui, un très beau poème.
Aragon,
alors là,
les
lilas et les roses.
Oui, très beau vers d'Aragon. Alors là, on raconte la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Donc Pierre, forcément, part à la guerre. Il est fait prisonnier par les Allemands. Donc il va passer 5 ans en captivité en Allemagne, dans un camp, un camp de travail.
Oui.
Et donc là, on a des bribes de lettres. Hein. Vous avez reproduit donc des lettres de qu'il écrit à ses grands-parents qui sont en Corrèze.
Voilà, j'ai retrouvé toute la correspondance en fait de captivité, et ça m'a apporté un autre regard sur ces épisodes. Donc mon père m'avait plutôt raconté les aspects humoristiques, enfin des histoires plutôt pittoresques, hein, voilà, oui, des anecdotes, parce qu'il voulait pas nous écraser aussi avec ce qu'il avait vécu. Et en fait, là, à travers ses lettres, j'ai pu avoir une idée beaucoup plus précise de ce qu'il avait vraiment vécu pendant ces 5 années de captivité, ce qui est quand même très très long et dont on parle pas assez, je trouve, aujourd'hui.
On commémore
finalement mai-juin 1940 et on oublie un peu que il y a quand même 2 millions de jeunes Français qui ont été faits prisonniers et envoyés en captivité et qui ont perdu 5 ans de leur vie, ce qui n'est pas rien. Et donc j'ai voulu aussi rendre un peu hommage à ces prisonniers de guerre.
Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est très émouvant, hein, comme je disais, vous avez une belle écriture, mais elle est pudique, elle est retenue, donc je veux dire, tous les passages qui sont émouvants, c'est grâce à votre écriture, hein, parce qu'il y a des passages, bon bah quand il envoie les lettres justement à ses grands-parents pour réclamer des choses dans ses colis, le passage où, parce que bon, il va apprendre l'allemand, il se fait envoyer des livres, hein, de Corrèze, il accède même à un poste, on va dire, de confiance, hein, au sein de son commando, et donc, il ne perd pas l'espoir et il fait travailler son esprit, parce que c'est important quand on est en captivité de conserver cet esprit. Voilà.
C'est ce qu'on lit à travers ses lettres, effectivement, comment il a fait pour tenir survivre, finalement, voilà, moralement, grâce à la lecture, ans. Grâce aussi à la camaraderie.
Oui. Parce que les hivers, il faut rappeler quand même en Allemagne, genre moins 33 degrés et 60 cm de neige. Voilà, il a passé 5 hivers quand même. Voilà. Donc, voilà, et donc tout ça, c'est très très bien, on le ressent à la lecture, c'est très très bien ressenti, cette émotion et puis cette réalité, hein, donc on ne parle peut-être pas assez, comme vous le disiez, Jean-Yves. Et je voudrais juste, parce que le temps nous rattrape, mais il a écrit aussi, il a écrit notamment une ballade, hein, pour ses camarades, Noël, hein, un fameux Noël. Et je suis en train de chercher les derniers vers de cette ballade que je cherche désespérément sur mes notes et que je ne trouve pas et que je voulais lire. Ah, ça y est, si j'ai trouvé. Je voulais lire à l'antenne, ça y est, je les ai trouvés. Cette étoile, c'est l'espérance qui vit au cœur sombre des nuits. Cette étoile, c'est notre France où mon cœur éperdu s'enfuit.
Oui.
Voilà, ce sont les derniers vers d'une ballade donc il avait écrite en captivité pour un Noël.
Pour le soir de Noël, voilà.
Pour lire à ses camarades de ce camp. Et c'est plein d'espoir, hein, malgré
voilà,
tout.
À la fois de nostalgie et d'espoir.
Oui, mais voilà.
Tout à fait.
Donc au bout de 5 ans, il sera libéré par les Américains. Il mettra un mois avant de regagner la Corrèze, parce que forcément c'est la pagaille, hein, pour regagner de l'Allemagne, pour regagner la Corrèze, enfin la France, etc. Et puis donc le dernier chapitre, donc le chapitre 3, donc c'est celui-ci, le quatrième chapitre, c'est l'épilogue, où là, il y a un parallèle entre donc, l'histoire de la guerre de Troie.
Oui, oui, oui.
Et puis vous et votre père qui vous retrouve avec
lui. Oui, j'ai voulu évoquer, mais d'une manière assez indirecte en même temps et transposée. J'ai voulu à la fois parler effectivement du grand âge, puisque mon père a vécu très, très, très âgé, ce qui est une chance, mais en même temps aussi une difficulté. Et en même temps, j'ai voulu évoquer cette relation filiale très forte entre lui et moi. Et donc, j'ai pensé au personnage d'aîné dans la guerre de Troie qui porte son père en quille sur son dos pour le sortir de la ville en flammes. Et ça m'a paru exprimer de manière poétique ce que je ressentais.
Donc c'est ce quatrième chapitre, épilogue, il est très émouvant là aussi, mais toujours grâce aussi à votre belle écriture, Jean-Yves Lerichesse. Et on le ressent vraiment. Et donc voilà, c'est un peu le vous racontez votre présent, votre vie à votre papa, et puis donc le passé qui revient aussi. Alors malheureusement, on est obligé de se quitter. J'espère que vous reviendrez nous parler d'un prochain livre, Jean-Yves.
Oui, volontiers.
On se retrouve la semaine prochaine. Adiciats.
Au revoir, merci. Boop-boop-be-doop.